séance, elle commence à me parler de haut potentiel et de zèbre, vraiment ces deux termes-là en premier. Et très honnêtement, moi je savais pas du tout de quoi elle me parlait, enfin vraiment, mon premier contact avec cette caractéristique, c'était de quoi elle me parle. Et donc ensuite, elle m'a quand même sorti le terme surdoué qui là me parlait un petit peu plus parce que j'aurais tendance à dire qu'il fait plus partie du vocabulaire commun. Mais bon, pour autant, je savais pas du tout ce que c'était d'être surdoué au quotidien. Donc bon, voilà, je me dis ok, d'accord, très bien. Elle me conseille de lire le célèbre livre « Trop intelligent pour être heureux ». Et ensuite, selon déjà si je me reconnais dans le livre ou pas, de passer un test.
Bonjour et bienvenue sur le podcast participatif de la vie en pause. Alors ici, tu trouveras des témoignages de personnes neuroatypiques, autistes au potentiel, hypersensibles, TDAH, etc. Alors je te souhaite une très très belle découverte et je te dis à bientôt.
Hello Claire, hello à tous, moi c'est Léa du compte J'ai des rayures, j'ai 25 ans et je viens de Toulouse. Ça expliquera mon petit accent qui à mon avis s'entendra. Donc dans la vie, je suis un petit peu en transition en ce moment. En fait, je suis carrément en reconversion professionnelle. Après avoir travaillé dans la communication, j'avais envie de quelque chose qui ait plus de sens, qui me convienne plus tout simplement. Et donc là, j'ai décidé de devenir sophrologue. Voilà. Et ensuite, de manière générale, qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Ben déjà mon chien, Nano, et les animaux, la nature, voyager, la musique, les séries, les jeux vidéo, lire aussi, et je pense que je dois oublier des choses, mais voilà, en fait, j'aime pas mal de choses différentes, parce qu'en même temps, je pense que j'aime pas trop m'ennuyer.
Ce que j'aime par-dessus tout, je trouve que c'est une question super difficile, ça vient de provoquer une réflexion de plusieurs minutes. C'est super dur pour moi en fait de dire ça. Donc je vais dire que pour le moment, ce que j'aime par-dessus tout, c'est rencontrer des personnes et échanger avec des personnes qui me ressemblent, qui comprennent mon fonctionnement et qui ont un fonctionnement similaire. Mais c'est vraiment pour le moment. Ça fait pas 6 mois que j'ai découvert le monde, l'univers des hauts potentiels. Et pour moi, dans mon cas, je l'ai vraiment intégré, accepté et compris il y a 2 mois, 2-3 mois maximum. J'ai appris ça, j'ai compris ça, et découvert tout ça via mes lectures. J'ai dévoré un nombre incalculable de bouquins, des auteurs de référence standard sur le sujet. Donc voilà, j'ai affiné de plus en plus mon profil, mes caractéristiques, et j'ai réalisé que je lisais des portraits de moi au fil des pages. Donc j'ai confirmé ça en me rapprochant d'une ASBL qui s'occupe de la douance. L'approche est sans test, donc uniquement sur entretien. Donc il y avait un entretien prévu de 3 heures. J'y suis restée plus de 5 heures. Donc voilà, deux hauts potentiels qui discutent. Donc c'est uniquement basé sur un échange. Donc la personne qui m'a fait passer l'entretien m'a confirmé que, selon elle, c'était évident que j'avais ce profil et que que j'en avais toutes les caractéristiques, quoi. Mais donc voilà, c'est pas basé sur test. C'est uniquement basé sur un entretien. Et ce que je voulais ajouter, donc par rapport à ma découverte sur le sujet, c'est que j'en suis arrivée à cette réflexion parce que depuis le mois de janvier, plus ou moins, de cette année, voilà, je fais un travail sur moi-même, une grande réflexion, parce que j'avais des soucis dans mon couple. J'avais des réactions émotionnelles très intenses et ça commençait à poser des soucis. Donc j'ai décidé de prendre les choses en main et de me questionner. Et donc j'ai fait tout un travail sur moi, toute une réflexion. Le confinement a beaucoup aidé vu que voilà, on était isolés, donc aucune sollicitation extérieure, donc ça m'a permis de faire le point. Et donc petit à petit, j'ai d'abord découvert l'hypersensibilité et au fil de mes lectures, j'ai mis le doigt sur les hauts potentiels et donc sur mes rayures.
Alors en fait, c'était il y a un an et demi à peu près, j'avais décidé de consulter une énième psychologue. Toujours un petit peu pour le même motif, j'avais l'impression de pas forcément être très épanouie dans ma vie, malgré le fait que j'avais tout en apparence. Donc voilà, je décide d'aller la voir et je m'en souviens encore très bien parce que dès la première séance, donc bon, forcément on discute, je dois quand même un peu lui présenter qui je suis, qu'est-ce qui a pu se passer dans ma vie. Et je me souviens en fait que ces questions, elles étaient assez... Enfin, je les trouvais vraiment pertinentes. J'avais l'impression qu'elles me cernaient bien. Étrangement, d'ailleurs. Et voilà, qu'elles visaient juste. Donc, bon, là, franchement, j'avais plutôt une bonne impression. Et donc, pendant la séance, elle commence à me parler de haut potentiel et de zèbre. Vraiment, ces deux termes-là en premier. Et très honnêtement, moi, je savais pas du tout de quoi elle me parlait. Enfin... Vraiment, ouais, mon premier contact avec cette caractéristique, c'était de quoi elle me parle. Et donc ensuite, elle m'a quand même sorti le terme surdoué qui, là, me parlait un petit peu plus parce que j'aurais tendance à dire qu'il fait plus partie du vocabulaire commun. Mais bon, pour autant, je savais pas du tout ce que c'était d'être surdoué au quotidien. Donc bon, voilà, je me dis ok, d'accord, très bien. Elle me conseille de lire le célèbre livre « Trop intelligent pour être heureux ». Et ensuite, selon déjà si je me reconnais dans le livre ou pas, de passer un test. J'ai donc bien évidemment lu le livre, qui effectivement m'a beaucoup parlé, je me suis reconnue dans beaucoup de passages. J'avais carrément envie de stabiloter l'entièreté du livre pour montrer à mon entourage « Ah, mais t'as vu ça ? Je me reconnais !» Bref, donc voilà, ouais, franchement, j'ai mis quand même pas mal de mois à le lire, le livre, mais je me reconnaissais assez bien dans ce qui était décrit.
Raconte-nous ton diagnostic.
Alors justement, c'est à la suite de la lecture de ce livre que j'ai décidé de passer le test. En fait, je voulais pas rester dans le doute et dans le peut-être que je le suis. Donc voilà, j'avais vraiment besoin d'un avis extérieur et qui est un professionnel du sujet qui me dise effectivement vous l'êtes ou non vous ne l'êtes pas. Voilà, donc du coup, j'ai pris rendez-vous, j'ai passé le test quelques mois après, donc là, ça va bientôt faire un an que j'ai passé le test. Le jour du test, donc c'est vrai qu'on y va, on est quand même un petit peu stressé parce que c'est un peu le test qui peut changer notre vie, entre guillemets, mais c'est vrai que c'était quand même assez important. Donc voilà, je fais toute la passation du test, l'heure du résultat arrive. Et le psy me montre la courbe du QI, là, et je me dis, mais je peux pas être là au-delà de 130, ça me paraît dingue. Enfin, je pense qu'il y a des personnes qui m'écoutent qui comprendront, mais ouais, c'est vrai que ça paraît irréel en fait. Donc bon, là, c'est vrai que c'est un peu le moment de stress, et là, le psy me confirme que oui, je suis bien au potentiel. Donc franchement, quelque part, c'est un soulagement. C'est vrai, c'est un soulagement. Ça vient expliquer quand même bah, pas mal de choses, on va dire, de ma vie. Et puis à la fois, c'est se dire qu'on a passé 24 ans de sa vie pas sans savoir qui on était, parce que ça change quand même pas totalement la personne que je suis, mais sans en tout cas avoir connu cette partie-là, on va dire, de son identité, et cette caractéristique qui est quand même forcément importante et impactante sur le quotidien. Donc voilà, c'est quand même un petit peu un mélange d'émotions. Le score en lui-même ne signifie pas grand-chose pour moi. Voilà, c'est plus le résultat, le test et tout ce que j'ai pu apprendre sur moi en fait qui a été important. Alors le test, il a changé beaucoup de choses. Bah, déjà, j'ai l'impression du coup de mieux me connaître et mieux me comprendre, et pour moi ça c'est inestimable. Et puis ensuite, ça m'a permis de... Alors je remettais déjà un petit peu ma vie en question, mais c'est vrai que j'ai mis ma vie à plat en me disant, ok, maintenant qu'est-ce que je fais? Sachant que ces derniers temps, c'était pas foufou, t'étais pas très heureuse et tout, donc là, va falloir faire des changements. D'autant plus que tu viens d'apprendre que t'es quand même différente. À l'époque, on va dire que j'avais une vie, somme toute classique, si je peux dire ça. Donc là, je me suis dit, est-ce qu'en étant différente, tu es sûre que c'est ce dont tu as besoin, ce dont tu as envie? Voilà, j'ai fait une grosse remise en question et du coup, bah, après, j'ai acté des changements, comme par exemple la décision de me reconvertir. Le point de départ, c'est quand même le test et le fait d'apprendre que j'étais au potentiel.
Donc j'ai mis le doigt sur les hauts potentiels, leurs caractéristiques et sur le fait que ça me décrit énormément donc via des lectures, les lectures sur le sujet, les auteurs de référence, les plus standards, quelques vidéos sur Internet également. Donc je n'ai pas passé de test. Je me suis adressée à une ASBL qui s'occupe de la douance, mais qui base ses diagnostics uniquement sur les entretiens et pas sur des tests. Ils sont contre l'approche via des tests. Donc j'ai eu un entretien dans cette ASBL avec le responsable qui, après 5 heures d'entretien, m'a confirmé ce que je pensais bien avoir compris via mes lectures. Je ne suis pas du tout contre le fait de passer les tests, en fait. J'envisage de le faire. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé une psy dans ma ville qui pourrait faire l'affaire, qui m'a été renseignée par d'autres hauts potentiels. Parce que, en fait, j'aimerais vraiment me connaître mieux. J'ai vraiment entamé cette démarche de me découvrir. Parce que je pense que jusqu'à présent, ou jusqu'il y a très peu, je m'autorisais pas à être qui j'étais vraiment. Et en ayant identifié toutes ces caractéristiques chez moi, je les trouve merveilleuses et épatantes et infinies. Et je pense que j'ai plein de possibilités de me sentir mieux, de me sentir bien, en étant moi-même tout simplement. Et c'est quelque chose que je ne me suis pas autorisée, ou pas assez. Et je découvre seulement ça maintenant. Et je pense que ça passe par une bonne connaissance de moi. Donc je dois vraiment aller au bout, connaître mes forces, mes faiblesses, mes caractéristiques encore plus profondes, plus de détails, affiner plus qui je suis pour mieux en profiter en fait, Et donc, c'est dans cette optique-là que j'envisage de passer les tests, en espérant ne pas être déçue et justement tomber sur un thérapeute qui comprend cette vision.
En quoi te sens-tu différente des autres ?
Alors, c'est pas une question évidente. Avant, on va dire, de passer le test, quand j'avais pas conscience vraiment que j'étais différente, je pense que du coup, c'était pas très explicite. Ça sautait pas forcément aux yeux. Enfin, ma différence ne me sautait pas aux yeux, c'est ça que je voulais dire. Je vais y arriver. En revanche, je pense que j'avais quand même... que je ressentais un sentiment de décalage, mais que c'était un peu en sous-marin, en fait. Enfin, que ouais, on n'y prête pas forcément attention, on n'a pas cette idée-là tous les jours en se levant, mais je pense que c'était là. Et ensuite, là récemment, je me suis surtout rendu compte que j'étais différente au travail. Mais c'est pareil, avant, j'en connaissais pas la cause, donc j'étais là, ok, bon, je suis un peu une chieuse, quoi. Désolée pour le terme, mais c'est un peu ça. Et je vais l'expliquer après, mais voilà, je me disais, ok, je suis trop une meuf relou, et puis c'est tout. Et en fait, maintenant, c'est, ah ouais, non, je suis au potentiel, donc du coup, quelles sont mes particularités? Ben, j'accepte beaucoup moins de choses que les autres, tout simplement. Et avant, je pensais juste que j'étais une meuf chiante, mais en fait, non. C'est juste que j'ai un sentiment d'injustice qui est plus fort. C'est juste que je vais accepter beaucoup moins de choses parce que la légitimité m'importe. C'est juste aussi que je suis hypersensible, donc tout de suite, je vais forcément réagir plus vite et plus fort par rapport aux autres, etc. En fait, il y a vraiment plein de choses qui sont venues s'expliquer. Et du coup, mes particularités, c'est ça. C'est le fait aussi d'être vachement empathique. Voilà. Le fait d'être aussi exigeante, voire même perfectionniste. Et voilà. Et tout ça, ça fait que j'ai pu me sentir différente. Ouais, carrément. Et surtout dans la sphère professionnelle. Parce que on choisit pas forcément ses collègues. Donc, à un moment donné, on va forcément être amené à voir cette différence, alors qu'au niveau de l'entourage ou des amis, honnêtement, je me sentais pas forcément en décalage. Ça allait, bon, il y a forcément... Enfin, en même temps, on n'est pas tous pareils, donc il y avait forcément des moments où on n'est pas en accord, où on fonctionne différemment. Mais voilà, au niveau de la sphère personnelle, ça allait, parce que déjà j'estime qu'on choisit un petit peu plus les personnes qui nous entourent dans la sphère personnelle que professionnelle. Moi, honnêtement, la différence, ouais, je l'ai surtout vue et du coup mal vécue au niveau pro.
Deux millions de pensées à la demi-seconde. Donc, des scénarios... infinis qui peuvent se créer à n'importe quel moment, après n'importe quelle situation, positive, négative, ça part toujours en vrille dans le cerveau. En fonction de mon état d'esprit, ça peut être génial, comme ça peut être tourné en rond et se perdre en lamentation. Je comprends très vite les choses, les films, les histoires, les situations de la vie courante. Je comprends vite et je suis énervée de la lenteur des autres pour comprendre des choses si simples. À côté de ça, je vais bloquer sur des trucs basiques que la plupart des gens font. Et moi, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Tant que je ne trouve pas la manière de le faire à ma façon, ou de le comprendre à ma façon. Donc parfois, j'ai l'air complètement teubé. Mais la plupart du temps, c'est moi qui trouve que les gens ne comprennent rien. Donc j'ai ce gros décalage. J'entends, je suis très sensible au bruit. Donc, pour dormir, j'ai découvert dernièrement que je ne peux dormir qu'avec des bouchons. Je ne peux dormir correctement qu'avec des bouchons. J'entends tout, en fait. J'entends le vent dans le rideau. Le voisin qui se gratte le nez. Bon, j'exagère un peu, mais j'entends tous les petits bruits, les moindres sons. Donc ça remonte à très loin. Ça, je me souviens que petite fille, déjà le tic-tac des horloges m'ennuyait énormément, me stressait, c'est impossible de me concentrer sur autre chose. Et donc c'est toujours le cas. Des tout petits bruits répétitifs que personne n'entend m'ennuient, donc mon cœur qui bat sur l'oreiller, que je sens via une veine près de l'oreille, ça tape, ça bat, ça m'empêche de dormir parfois. Ça, c'est une chouette caractéristique. Quoi d'autre? Je vais aller un peu plus loin, ça reviendra peut-être. En quoi est-ce que je me sens différente de la norme? Je pense que pour résumer, je peux dire que quelque chose qui s'adapte à presque tout et qui me caractérise beaucoup, c'est que je suis hors code, en fait, code sociaux, hors code sociaux. Dans n'importe quelle situation, je suis à côté des codes sociaux, que ce soit en groupe d'amis, en réunion de famille, à un enterrement, à une réunion de boulot, à un pot de départ, à un anniversaire d'un ami d'amis. Je n'arrive pas à intégrer ces codes qui sont normaux pour tout le monde, en fait. Je vois les rôles de tout le monde, je vois le rôle endossé par chacun, et je vois que c'est faux, je vois que c'est du jeu. On sait très bien que l'année suivante, au même anniversaire, ça sera les mêmes personnes et les mêmes discussions, et tout le monde a son rôle, et tout le monde a sa place, et tout le monde tient bien le rôle, et tient bien son personnage, et moi je ne fais qu'observer tout ça en me disant, mais comment est-ce qu'ils font pour jouer ça tranquillement, comme si de rien n'était. Et ça arrive tout le temps, en fait, dans presque toutes les situations de ma vie. Et c'est un énorme décalage qui fait que, voilà, je suis toujours. Soit on m'isole, soit je m'isole. Dernièrement, c'est moi, en fait, qui m'isole. Et clairement, j'affirme ma différence. Et voilà, ça ne me dérange plus de presque montrer clairement que les conversations de machine à café ne m'intéressent pas. Et maintenant, j'adhère à cette position-là. Mais c'est vraiment caractéristique. J'observe tous ces codes en marche et je me sens complètement à côté, en dehors. Voilà, d'autres caractéristiques auxquelles je peux penser là pour le moment. Oui, c'est une vie intérieure immensément riche. Qui m'empêche aussi de me poser, en fait. J'ai beaucoup de mal à me poser. J'ai du mal à me détendre, à ne rien faire. Je suis presque incapable de ne rien faire, en fait. Si je me pose pour me reposer, c'est presque systématique. Je dois allumer une cigarette, par exemple. Il manque quelque chose si c'est pas le cas. J'ai ce besoin d'être en action tout le temps. Et à côté de ça, je procrastine énormément. Parce que par exemple, dans le travail, je ne travaille bien que dans l'urgence. Donc je laisse tout pour presque trop tard. Comme ça, je travaille dans l'urgence et je travaille bien. C'est nickel, je m'ennuie pas. Hop, ça avance. Et c'est comme ça que j'aime travailler, mais c'est de la procrastination en plein. Ces audios, par exemple, c'est la même chose. Je choisis je fais en sorte que de faire ça le dernier jour. C'est plus fort que moi. Je combats l'ennui. Je fuis l'ennui le plus possible. Je pense à 2000 activités à faire pour combler cet ennui. Mais je procrastine parce que face au choix d'activité, je reste bloquée. C'est aussi une caractéristique, c'est que choisir, c'est renoncer. Donc je préfère souvent renoncer à tout, à toutes les choses auxquelles je viens de penser, plutôt que d'en choisir une et délaisser les autres. J'ai beaucoup de mal à faire des choix pour tout. Ouf, les réflexions sont immenses dès qu'il y a un choix à faire. Une autre de mes caractéristiques, c'est aussi un fonctionnement cyclique, mais cyclique à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que je peux passer par soit des périodes de plusieurs jours très positives et ensuite des périodes de plusieurs jours très négatives, ou je peux même voir ça sur l'année, par mois. Mais c'est aussi vrai sur une journée ou sur une matinée. C'est vraiment, je peux passer d'une émotion à l'autre, souvent extrême, en un rien de temps. Donc c'est vraiment ascenseur émotionnel, roller coaster, quoi. Je peux passer du noir au blanc en un quart de seconde. Et le fait de me rendre compte de ça, en fait, de me rendre compte du côté cyclique, ce que je veux dire par là, le côté cyclique, c'est que après un moment négatif, je suis toujours dans un moment positif. Je reviens toujours, je remonte toujours. Et j'ai observé ça dernièrement, c'est que oui, je reviens toujours au positif. Et donc maintenant, j'ai une approche différente des moments négatifs. Je les accueille juste comme mon fonctionnement propre, en fait. Et je pense réellement que les moments négatifs, la souffrance et les émotions négatives ont un rôle dans l'évolution personnelle et nous permettent d'apprendre des choses sur nous. Et comme j'ai cette capacité à remonter facilement, presque sans effort, en fait, ça vient naturellement, ça me permet d'avoir confiance dans le fait que je peux profiter justement de ces moments négatifs pour apprendre. Et donc je les aborde maintenant un peu différemment. Et voilà, c'est ce que je voulais mentionner, c'est le côté cyclique de mon état d'esprit, de mon mental, de mon énergie.
Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans la vie?
Ce qui est difficile pour moi, c'est de mettre mon cerveau en off, par exemple. Vraiment me relaxer, en fait. Me distraire, me détendre vraiment avec le cerveau off, c'est très très compliqué. Les distractions superficielles qui conviennent à la plupart des gens, regarder la télé, ouais, regarder la télé, regarder un match, regarder de la télé-réalité ou que sais-je. Moi, ça me suffit pas, en fait. M'intéresser à une compétition en particulier. Voilà, c'est difficile pour moi de trouver de la satisfaction dans ce genre d'activité. J'ai beaucoup de mal à me structurer, à structurer mes pensées, à structurer en général les choses. Je donne trop d'importance à des petites choses et certainement pas assez à des choses plus importantes. Donc, j'ai du mal à, oui, à structurer. C'est comme quand j'écris également. J'ai du mal à trouver une certaine structure. Ça vient comme ça vient et j'ai du mal à mettre un cadre. J'ai énormément de mal à résumer. Ici, pour cette question-ci, par exemple, j'ai vraiment pris des notes. Parce que spontanément, comme ça, c'est très compliqué pour moi de résumer. Lire un article et produire un résumé, ça a toujours été compliqué dans ma vie. C'est synthétiser, c'est une grosse épreuve pour moi également. J'ai beaucoup de mal. Tout est important, en fait. J'arrive pas à choisir les informations que je peux laisser sur le côté. Donc quand je ne sais pas prendre de notes, par exemple, je suis très mauvaise, j'ai tendance à tout écrire et donc je m'en sors pas. Voilà, ça c'est typique. J'ai beaucoup de mal à évaluer le temps. Je pense toujours qu'il va... Voilà, j'ai 2 heures devant moi, je peux refaire le monde. Je peux trouver des recettes intéressantes, ensuite aller dans un magasin spécialisé de cuisine pour trouver les bons ustensiles et ce qui me manque dans ma cuisine. Ensuite, repasser dans un magasin alimentaire ainsi qu'à la boulangerie, pourquoi pas à la boucherie. Revenir avoir lancé une machine, mi-sécher la machine et nettoyer un peu la cuisine au passage. Hein, tout ça en 2 heures, c'est évidemment tout ce que j'imagine pouvoir faire. Ça n'arrive jamais, hein, c'est pas du tout réaliste. Et donc voilà, j'ai beaucoup de mal à évaluer le temps dont j'ai besoin pour exécuter certaines choses, parce que j'ai l'impression d'être tellement rapide que je peux tout faire en rien de temps. J'ai du mal à ne pas me laisser submerger, en fait. Là, quand j'ai écrit ça, c'était surtout par rapport, je pensais à mes émotions négatives. Voilà, la tristesse, le désespoir, chez moi, c'est du costaud. C'est très très lourd, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts temporaires, hein. Je remonte toujours assez rapidement, mais c'est toujours très très fort. Ça tape. Donc, même en étant consciente, même en connaissant tout ça, ça ne m'empêche pas d'avoir encore des coups de temps en temps et d'être surprise de l'intensité de ces émotions. Je déteste aussi, enfin, c'est difficile pour moi d'être incomprise. Surtout les personnes qui comptent pour moi, si j'essaye de leur expliquer des choses sur mon mode de fonctionnement, sur pourquoi j'ai réagi de cette manière-là, qu'est-ce que je pense que ça a provoqué chez moi qui a fait que j'ai réagi d'une telle ou telle manière. Et quand je lis l'incompréhension chez la personne, ça, je suis très très frustrée en fait. Parfois, je dois juste me résoudre en fait, au fait que tout le monde n'a pas ce fonctionnement et n'est pas capable de comprendre ce que c'est, vu que tout le monde ne connaît pas ça. Et c'est vrai que quand je lis parfois cette incompréhension, quand j'essaye de dire les choses et que je vois que ça ne passe pas, ça c'est difficile pour moi. La frustration est difficile à supporter et à accepter. Et la dernière chose que j'ai notée, peut-être que je repose on sera encore à d'autres choses par après, mais c'est difficile pour moi de faire des choix. Vraiment. C'est quand j'ai trop de choix, mais même pas forcément trop, mais c'est dur de choisir, parce que choisir, c'est renoncer. Il n'y a rien de plus vrai. Et moi, j'ai du mal à renoncer. Donc, quand je suis face à un choix, que ce soit un choix très simple, comme aller au resto et choisir sur le menu, comme un choix de vie ou un choix professionnel, c'est tout aussi compliqué, en fait. Et aussi, le choix des activités que je vais faire dans une journée de loisirs, j'ai du mal souvent à la remplir. Finalement, je passe mon temps à imaginer comment je pourrais remplir ma journée, et je pense à un millier d'activités que je pourrais faire, mais ça implique d'en choisir quelques-unes, et j'ai beaucoup de mal à faire ça. Ça, c'est un beau gros dilemme chez moi. J'ai plein plein d'idées, mais je ne sais pas quoi en faire. Alors, qu'est-ce qui m'aide dans mon quotidien à gérer ces difficultés ? Dernièrement, le fait de savoir que tout ça, en fait, c'est un peu les conséquences de mon fonctionnement un peu différent, atypique, le fait de savoir que c'est lié à ça, ça c'est comme si je me découvrais normale dans mon anormalité, et donc je trouve une sorte de légitimité, d'acceptation. Au final, ça mène à l'acceptation. Je réagis comme ça, j'ai ces difficultés-là parce que je fonctionne différemment. C'est le fait de le savoir me permet de prendre plus de distance, de mettre des mots dessus plus facilement, j'allais dire de justifier, mais d'expliquer en fait. Bizarrement, c'est toujours le cas, j'ai toujours ces difficultés-là, mais le fait de les accepter les rend plus faciles en fait. Et parallèlement, il y a également une sorte de prise de conscience de mes compétences en fait, du fait que je peux. J'ai vraiment mis le doigt sur un potentiel que j'avais et que je pensais cacher en fait. Enfin, que je. Non, c'est pas que je pensais cacher, c'est que je pensais carrément que c'est. J'avais aucune idée d'avoir ce potentiel en moi. Et en m'informant au fil de mes lectures et de mon parcours sur les HP, etc., j'ai vraiment compris qu'en fait, oui, j'ai beaucoup plus de capacités et de compétences que ce que je crois à la base. Et donc, je peux me permettre de faire les choses différemment. Et je suis apte à apprendre encore. Je peux faire les choses d'une autre manière. Et donc, maintenant, je fais de mon mieux justement pour être consciente de, non, je n'ai pas, en 2 heures de temps, je ne vais pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai au moins cette prise de conscience et donc je peux un peu diminuer mes attentes par rapport à ça, par exemple, par rapport à ma manière d'évaluer le temps. Maintenant, je suis consciente que je peux me tromper, quoi. Je dois voir moins grand. J'arrive aussi maintenant à vivre mes émotions différemment. Je ne les renie pas. Je les vis à fond en étant consciente qu'elles sont là. Et c'est peut-être quand même différent que de se laisser submerger par elles, les accepter plutôt que de les subir, même si elles sont toujours là. Ça, c'est une démarche que je tente d'avoir dernièrement, qui fonctionne. Ça fonctionne pas tout le temps. Il faudrait que je sois plus constante, mais quand je m'y mets, ça fonctionne vraiment. Donc, la clé est la connaissance de soi. Je pense. Qu'est-ce qui est facile pour moi? C'est très facile pour moi d'écrire, ça l'a toujours été, que ce soit des dissertations, les dictées, création, écrire un journal, j'ai toujours fait ça. Ici, je n'écris plus de journal en soi, mais j'écris partout. Voilà, j'ai des textes sur mon téléphone, sur mon PC. Écrit à la main, voilà, j'écris des histoires, pas des histoires, j'écris ce qui me passe par la tête, j'écris tout le temps, j'écris souvent. Je m'exprime énormément en écrivant. C'est très facile pour moi de trouver des solutions. Je trouve des solutions à tout, même quand je ne connais rien dans la matière, je trouve des solutions. Il y a toujours des solutions. Il n'y a pas de problème en fait, il n'y a que des solutions. C'est vraiment bateau de dire ça, mais voilà, je trouve toujours un moyen de faire. C'est très facile pour moi de procrastiner également. Parce que comme oui, c'est lié au choix. C'est lié à la difficulté de prendre des choix, de faire des choix. Donc, c'est facile de procrastiner, puisque ça reporte les choix, en fait. Donc, je suis plutôt douée en la matière. Je comprends les choses vite. Et exécute vite. Donc, par exemple, au travail, il ne faut pas m'expliquer deux fois quelque chose de nouveau. C'est bon, je sais. Donc, ça m'agace assez vite si on prend trop de temps pour m'expliquer, parce qu'il n'y a pas besoin, en fait. Donc, voilà, je comprends vite les choses. Parfois, c'est trop vite. Parfois, je crois avoir compris. En fait, j'ai compris à côté. Mais sinon, la plupart du temps, voilà, je comprends vite ce qui se passe. Je comprends où on veut arriver. Je comprends le résultat. Et j'exécute rapidement à ma façon. C'est peut-être toujours un petit peu décalé et j'ai toujours un peu du mal à expliquer comment je fais, pourquoi je fais ça. Bref, le résultat est bien, il est à temps, il est là, mais je crois qu'il y a tellement de choses qui se passent dans mon cerveau pour expliquer comment j'en suis arrivée au résultat que c'est... Ouais, c'est pas possible, c'est impossible à expliquer en fait, ça se vit. Ce qui est facile pour moi, une dernière chose que j'ai notée ici, c'est réfléchir, parce qu'effectivement, voilà, je peux réellement choisir une question, une réflexion, et me dire, bon, allez, je prends une heure et on avance là-dessus. Et vraiment, j'ai cette capacité d'amener ma réflexion et de trouver des réponses, en fait, de trouver mes réponses, de trouver le sens à ces questionnements. Et donc, c'est quelque chose d'assez facile pour moi, ça vient facilement. Si l'intention est positive, je peux arriver à de beaux résultats et des prises de conscience qui me font avancer réellement, qui font que j'en suis là aujourd'hui et que j'ai évolué d'une certaine manière en quelques mois. C'est vraiment, ouais, c'est facile pour moi de réflexionner. Vraiment, j'ai beaucoup d'idées qui viennent en même temps, je pense à plein de choses, et donc ça, je fais des recoupements, et jusqu'au moment où, ah, yes, ça y est, oui, je sais, c'est ça, et donc je trouve la voie, je trouve la vérité. Par exemple, sous la douche, c'est quelque chose qui arrive souvent. Grand moment de vérité sous la douche, généralement. Il y a toujours des grandes révélations à ce moment-là de la journée. Voilà. Mes talents dans l'écriture. Hein. Je suis plutôt douée pour ça. Dans les niveaux professionnels, voilà, on peut me demander d'écrire sur n'importe quoi. Ça sort tout de suite. Postuler pour un poste, faire une lettre de motivation. C'est, voilà, pouf, en 20 minutes c'est plié, c'est premier jet, pas de brouillon, on y va, je retravaille pas, je fais tout comme ça, ça sort comme ça sort, et généralement c'est très très bien. Donc ouais, non, j'écris pas mal, j'aime écrire aussi pour le plaisir, j'aime écrire... des textes semi-poétiques, des déclarations d'amour, des déclarations de haine. J'écris beaucoup, j'aime ça et je suis plutôt douée. Je ne suis pas douée pour écrire des histoires, parce que j'ai du mal à structurer, à trouver un début, une fin, un milieu. C'est difficile pour moi d'envisager ça. J'aimerais faire ça à un moment donné, j'aimerais écrire des histoires. Mais c'est encore une idée très vague qui traîne dans ma tête. Il va falloir le temps que ça se mette en place, mais le talent écriture est là. Un autre talent que je pense est un talent, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure aussi, c'est je trouve des solutions et des plans B toujours en fait. Je suis jamais à court de moyens. Il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Il y a des solutions à tout. Que ce soit on parle de un problème concret, une fuite d'eau, une invasion de fourmis, ou un problème dans la vie. Vraiment, c'est à tous les niveaux, je trouve des solutions toujours. Et maintenant, je me fais confiance et je sais que ça peut prendre du temps, parfois. Parfois, la réflexion peut prendre plus de temps. Il faut expérimenter certaines choses avant de trouver la solution, mais elle vient toujours. Oui, c'est tout. Ce que j'aime faire par-dessus tout, je pense qu'on l'aura compris, c'est réfléchir en fait. J'ai eu du mal à aborder cette question, qu'est-ce que j'aime faire par-dessus tout ? C'est une question difficile, je trouve.
Et donc, j'ai essayé de l'aborder différemment. Je me dis, qu'est-ce que je fais tout le temps, en fait, dont je ne peux pas me passer? Et en fait, c'est ça. C'est ma vie intérieure. C'est ma réflexion. C'est ce qui se passe derrière les yeux, là. Tout le temps. Du grain à moudre, tout le temps. Que ce soit positif ou négatif, il y a toujours quelque chose en route. Il y a toujours des trucs en arrière-plan. Il y a plein d'onglets ouverts. Je me rends compte que c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je suis, c'est moi. La réflexion, les pensées, la vie intérieure pour me raccrocher à quelque chose tout le temps en fait. Donc voilà, je pense avoir répondu à ces questions en la contournant un peu, en faisant quelque chose que je fais tout le temps, c'est-à-dire réfléchir.
Alors, qu'est-ce qui n'est pas facile pour moi? J'ai envie de dire un peu plein de choses, malheureusement. Non, mais je vais pas me plaindre. Mais la première chose, ce serait déjà de vivre mon hypersensibilité. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'avoir autant d'émotions et aussi intenses. Faut pas quand même se le cacher. Maintenant, voilà, j'essaie de travailler sur ça pour vivre au mieux justement mes émotions et les accueillir de manière positive. Ensuite, ce qui est pas forcément évident non plus au quotidien, je trouve, enfin en tout cas me concernant, c'est le fait d'être comprise. C'est quelque chose qui m'a fait quand même pas mal défaut dans ma vie, je dirais. Donc voilà, c'est pas forcément évident. En plus, des fois, malheureusement, les personnes qui nous entourent, c'est pas forcément naturel pour elles d'être super empathiques. Enfin, c'est même pas que c'est pas naturel pour elles d'être empathiques, mais c'est surtout que elles sont beaucoup moins empathiques qu'on peut l'être nous en tant que haut potentiel ou hypersensible. Et malheureusement, des fois, elles n'ont pas forcément les bons mots, même si c'est pas intentionnel. Donc, moi, ça m'est arrivé souvent, donc non seulement de pas être comprise, mais qu'en plus de ça, j'avais pas le droit de ressentir ce que je ressentais. Et en fait, je sais pas, l'impression qu'on nie enfin, nos émotions, quoi. Voilà, on n'a pas le droit de ressentir ce qu'on ressent, et ça, c'est assez compliqué. Déjà qu'on est hypersensible, on galère un peu avec ses propres émotions, mais en plus quand autrui vient rajouter une couche en mode limite, en fait, t'es pas légitime à ressentir ce que tu ressens. Bon, ça c'est vrai que c'est pas très cool. Sachant que bon, maintenant l'avantage quand même que j'ai en ayant appris que j'étais au potentiel et hypersensible, c'est quand même que je peux expliquer, sensibiliser mon entourage. Donc je pense que ça aussi, ça aide quand même après à la compréhension. Pour poursuivre sur ce qui peut être difficile au quotidien, je dirais la relation de couple aussi, parce que voilà, parce que c'est pas évident de tout le temps se comprendre et on en revient à la compréhension et bon ça c'est peut-être une fixette de ma part, ouais c'est vrai que c'est quand on fonctionne différemment de toute façon, il faut beaucoup communiquer et c'est pas forcément toujours évident mais après je pense que ça reste quand même un point commun à tous les couples de toute façon neurotypique ou neuroatypique on dit bien que dans un couple enfin une des clés en tout cas c'est quand même la communication donc voilà ça pour le coup je pense pas que ça soit spécifique à notre couple. Mais voilà, c'est vrai que des fois on aimerait bien avoir un décodeur, je pense, pour fluidifier un petit peu les choses. Alors, ce qui m'aide face à ces difficultés, la première chose, c'est de m'être faite aider par des professionnels de la santé mentale, on va dire notamment, donc par des psys, des coachs. Par exemple, j'en suis déjà à deux coachings depuis que j'ai appris que j'étais HP, donc. Enfin, moi en tout cas vraiment j'hésite pas du tout à me faire aider et à voilà aller voir des personnes extérieures pour m'aider à progresser. C'est vraiment super important pour moi et en même temps je pense que sans ça j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, première chose, se faire aider dès qu'on en ressent le besoin, il n'y a pas du tout à avoir honte. Voilà, je tenais à le dire. La deuxième chose pour le côté plus, pour le coup, hypersensibilité et les émotions au quotidien, ce qui m'aide pas mal, c'est la méditation et le yoga, que j'essaye de pratiquer quand même régulièrement. Et en fait, ben, ça me, ouais, je sais pas, ça me calme, ça m'apaise, je pense que ça me canalise aussi, peut-être. Voilà, et en tout cas, je trouve que c'est vraiment formidable. Après, il faut que ça convienne, hein, donc y a, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas, de mon côté, ça m'aide vraiment. Ce qui m'aide aussi, il faut le souligner quand même, c'est l'entourage. Malgré ce que je disais précédemment sur le fait que des fois, c'est pas forcément évident, qu'ils n'ont pas toujours les bons mots, qu'on n'est pas toujours compris. Je sais que pour le coup, dans mon cas, à moi, c'est vraiment pas du tout malveillant, c'est pas du tout intentionnel. Je sais quand même qu'ils sont présents, qu'ils m'aiment, qu'ils veulent mon bonheur. Donc voilà, c'est bien de s'en rendre compte aussi et de le reconnaître. Et puis voilà, de savoir qu'on est entouré, qu'on est aimé. Et que malgré tout, ils sont prêts à nous aider, même si c'est maladroitement. Voilà, c'est quand même aussi important. Concernant ce qui est facile pour moi dans la vie, alors je sais qu'il y a beaucoup de zèbres qui peuvent être en échec scolaire. Moi, ça n'a pas du tout été le cas, et au contraire en fait. Et justement, donc, ce qui est facile pour moi dans la vie, je dirais que c'est la capacité et la facilité d'apprendre au final, et aussi la mémorisation. Et je pense que ces deux choses du coup m'ont beaucoup aidé dans mon parcours scolaire. Ensuite, je dirais la capacité de me mettre à la place des autres, justement. Et d'ailleurs, c'est ce qui a orienté, bien évidemment, ma réorientation professionnelle. Mais voilà, en fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même des facilités à comprendre, à me mettre à la place de n'importe qui, j'allais dire. Et même si j'ai pas du tout vécu ça, alors que chez les autres, entre guillemets, j'ai l'impression que les gens ne comprennent que ce qu'ils ont vécu. Et justement, ils n'ont pas trop de bienveillance et d'empathie envers ce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement. Donc voilà, donc ça, c'est vrai que c'est facile pour moi. Alors, pour finir sur mes talents, je pense que c'est ça, justement, pour pouvoir comprendre... n'importe qui, n'importe quelle situation, avoir à mon avis une grille d'analyse et être de bons conseils. Enfin, de toute façon, c'est encore une fois, c'est pour ça que j'ai décidé de changer de vie de professionnelle pour m'orienter justement vers ça. Qu'est-ce que j'aime par-dessus tout ? La vie. J'aime la vie, voilà, déjà. Et puis après, ce que je disais un petit peu en présentation, j'aime beaucoup la nature. C'est quelque chose qui m'apaise. J'aime aussi énormément les animaux. Et j'aime plein de choses, en fait. J'aime beaucoup la musique. J'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup lire aussi. Voilà, j'aime plein de choses. Mais si je dois résumer, c'est la vie que j'aime. Et pour finir, j'aime aussi beaucoup passer du temps en fait avec mon entourage, vraiment partager des bons moments, ce genre de, je sais pas, de bonheur simple et pur, je dirais, et voilà, partager un moment, partager un goûter, regarder un film ensemble, rire aussi, le rire c'est la vie, je sais pas, être tout simplement avec ses proches, pour moi c'est vraiment quelque chose qui est précieux. Voilà, et j'aime aussi par-dessus tout le voyage pour l'ouverture, l'enrichissement, l'humilité aussi que ça peut apporter. La découverte aussi de d'autres paysages, forcément. Moi qui aime la nature, j'aime aussi voyager pour ça. Mais voilà, ça c'est une grande richesse aussi de pouvoir voyager.
Peux-tu nous partager une lecture, un podcast, une chaîne YouTube, un compte Instagram, un homme, une femme, un artiste, peu importe, qui t'a marqué particulièrement, aidé ou inspiré sur le sujet de l'hypersensibilité et de la douance?
Alors oui, bien sûr, je vais faire un petit partage avec plaisir. La première chose que je voudrais rappeler, c'est quand même le nom de mon compte, bien évidemment. Je me fais un petit peu d'autopub. Donc, j'ai des rayures. Et juste pour en dire deux mots un peu sur l'histoire de ce compte que j'ai créé finalement vraiment peu de temps après avoir découvert que j'étais surdouée. Tout simplement parce que j'avais envie de m'exprimer sur le sujet, de coucher un peu sur le papier mes ressentis et de pouvoir justement les partager aussi avec d'autres personnes parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être leur parler, leur montrer qu'elles n'étaient pas seules. Et aussi, j'ai créé ce compte parce que, enfin, pour montrer qu'au sein même de la différence, il y a de la différence, c'est-à-dire tous les surdoués ne sont pas similaires. Et voilà, ça me semblait aussi important de le dire. Voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Vos témoignages sont bien évidemment les bienvenus. Et puis voilà. Voilà pour mon compte. Et sinon, donc le compte que j'aimerais bien partager, c'est celui d'Élodie Crépel, qui est coach psy et justement un petit peu spécialisée sur les surdoués, les hypersensibles. Et je trouve que franchement, son compte, c'est vraiment une mine d'or. Elle a vraiment beaucoup de ressources qui sont disponibles, voilà, des vidéos, des posts, elle a une chaîne YouTube aussi. Et voilà, moi j'ai quand même appris plein de choses, j'allais dire, grâce à son compte. Et voilà, je trouve que c'est un des comptes à suivre vraiment quand on est surdoué ou hypersensible. Voilà.
J'ai beaucoup aimé vraiment les ouvrages de Carlos Tinoco, Les surdoués et les autres, et Intelligent, trop intelligent. Ce sont donc ça fait partie. En fait, c'est les deux derniers. Enfin, non, pardon. Ce sont vraiment les deux livres qui m'ont fait bouger par rapport à la douance, en fait. C'est à la suite de la lecture de ces livres-là, même si ça faisait plusieurs mois déjà que je m'intéressais au sujet et que j'avais compris que j'étais concernée, c'est vraiment à la lecture de ces deux bouquins, après la lecture de ces deux bouquins, que j'ai mis en place la démarche d'aller voir la SBL qui s'occupe de la douance pas loin de chez moi. Et ça, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment concrètement agi un peu sur les choses. J'ai rejoint des groupes hauts potentiels sur Facebook, par exemple. J'ai commencé à échanger avec des hauts potentiels à découvrir ce monde réellement et concrètement après les ouvrages de Carlos Tinoco. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup parlé. Je trouve très très intéressant, passionnant et j'aime ses écrits. Ses écrits me parlent. Il a également une chaîne YouTube. Il reprend dans ses vidéos, il reprend beaucoup des sujets repris dans ses bouquins. Donc c'est un chouette lien en fait. Vraiment, je le recommande, Carlos Tinoco. Et sur YouTube également, je peux partager avec toi, peut-être que tu la connais, Christine Mortamet. Je trouve qu'elle est assez dingue, elle est perchée complètement et elle me fait beaucoup rire en fait. Elle dit des choses aussi très intéressantes, HP détectée aussi sur le tard. Et donc elle a une vision très drôle, je trouve. Elle est brouillon. C'est un peu, ouais, c'est un peu le foutoir dans ses vidéos. C'est pas structuré. Ça part dans tous les sens. Et donc ça me parle beaucoup, évidemment. Et donc elle me fait beaucoup rire. Elle a cette spontanéité. Et on voit les pensées qui jaillissent en dehors de son cerveau. C'est assez sympa à regarder. Voilà, elle me fait rire et elle dit des choses intéressantes également.
Seulement si le podcast t'a plu, alors je te laisse t'abonner, partager autour de toi, donner ton avis, un commentaire, afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.